Vous écoutez, on lit pour vous.
Nobel et lanceur d'alerte. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 19 mars 2025 dans la presse. Comment lancer la conversation avec celui qu'on surnomme le parrain de l'intelligence artificielle, IA, Geoffrey Hinton, lauréat du plus récent prix Nobel de physique, quand il apparaît sur notre écran d'ordinateur? Et pourquoi pas en parlant de partie d'échecs et du jeu de Go. Je m'explique. Nous avons abordé une question qui divise les experts. L'intelligence artificielle fait-elle preuve de créativité? Geoffrey Hinton a une position sans ambiguïté au sujet de ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. Je pense que la plupart de ces gens croit que nous avons une source interne magique de créativité que des objets matériels ne pourraient pas avoir. Et je pense que c'est de la foutaise, lance-t-il. Je pense que l'IA sera plus créative que les humains, ajoute l'expert. Elle ne l'est pas encore, mais elle le sera. Je lui ai appris que l'historien israélien Yuval Noah Harari aborde l'enjeu de la créativité de l'IA dans son plus récent essai, Nexus, en racontant la façon dont un ordinateur, baptisé AlphaGo, a battu le champion mondial du jeu de Go en 2016. « Il parle du coup 37, je suppose », réplique rapidement le septuagénaire, l'événement lui est visiblement familier. « Exactement. » C'est pour lui un exemple de créativité. Pour vous aussi? Oh, c'est de la créativité extrême. Je comprends mieux les échecs que le Go, mais AlphaGo fait des mouvements à la fois très créatifs et judicieux. Ce coup, qui a permis à l'ordinateur de vaincre l'humain, est passé à l'histoire. Parce qu'il était si inédit qu'il a surpris tout le monde. Et parce qu'il prouvait que l'IA, pour triompher, avait su élaborer une stratégie à laquelle l'humain n'avait jamais pensé auparavant, et il y joue depuis plus de 2000 ans. Et l'intelligence artificielle est beaucoup plus créative qu'un humain aux échecs, ajoute Geoffrey Hinton. On a décerné l'an dernier le Nobel de physique à Geoffrey Hinton, conjointement avec l'Américain John Hopfield, pour ses travaux sur les réseaux neuronaux artificiels qui s'inspirent du fonctionnement de notre cerveau. Ces travaux sont à la source des développements spectaculaires de l'intelligence artificielle ces dernières années. Certains remettent en question l'utilisation du mot « intelligence » quand on parle d'intelligence artificielle, ai-je fait remarquer à Geoffrey Hinton. Son avis est également très ferme à ce sujet. Bien sûr que c'est intelligent, dit-il. Ça peut résoudre des problèmes de raisonnement. Ça peut résoudre des problèmes mathématiques. Ça peut écrire un code informatique. Toutes les choses que vous auriez pu penser utiliser pour évaluer si une personne est intelligente. Ça fait beaucoup de choses. Et ça ne le fait pas en stockant des petits bouts de texte et en les assemblant, comme le pensent certains critiques. Ça ne marche pas du tout comme ça. Un modèle d'intelligence artificielle va en fait comprendre les chaînes de mots en convertissant chaque mot en certaines caractéristiques et en apprenant comment ces caractéristiques doivent interagir, explique ce professeur émérite de l'Université de Toronto. C'est notre principale forme de compréhension des choses, ajoute-t-il. Non pas le raisonnement logique, mais ce que nous appelons l'intuition, qui consiste essentiellement à voir des analogies avec des centaines de choses que nous avons vues auparavant. Non seulement l'intelligence artificielle fait bel et bien déjà preuve d'intelligence, selon lui, mais nous n'avons encore rien vu. C'est pourquoi, depuis qu'il a quitté Google au printemps 2023, après y avoir travaillé pendant une décennie, parce qu'à 75 ans, je ne pouvais programmer aussi bien qu'avant et je trouvais ça frustrant, dit-il. il passe le plus clair de son temps à sonner l'alarme. Geoffrey Hinton est persuadé que l'IA va générer bon nombre de retombées positives, souligne-t-il. En santé, en éducation et dans le domaine environnemental pour lutter contre les changements climatiques, par exemple. Mais il estime en contrepartie que nous devrions nous démener pour trouver des solutions à la menace qu'elle pose pour l'humanité. La plupart des experts en IA que je connais, les vrais experts, ceux qui comprennent comment elle fonctionne, qui l'ont développée, sont convaincus qu'elle deviendra beaucoup plus intelligente que nous. Pas un peu plus intelligente, beaucoup plus intelligente. Ça va se produire, à moins que nous ne fassions d'abord exploser le monde, lance-t-il avec une bonne dose d'humour noir. C'est ce qu'il qualifie de super-intelligence et que d'autres décrivent comme l'intelligence artificielle générale. Et c'est cette étape qu'il craint. Pour illustrer le danger pour l'espèce humaine que peut poser une IA beaucoup plus intelligente que nous, l'informaticien me demande d'imaginer une pièce remplie d'enfants de 3 ans qui ont un adulte comme employé. Si l'adulte décide de prendre le contrôle, ce n'est pas si difficile. Il suffit de leur offrir des bonbons gratuits pendant 1 semaine et le tour est joué. L'IA sera aussi douée pour nous manipuler que nous le sommes pour manipuler des enfants de 3 ans, résume-t-il. Geoffrey Hinton a-t-il des exemples concrets de façon dont ça pourrait mal tourner dans de telles circonstances pour les humains? Voici la meilleure analogie que je puisse faire. Imaginez que vous avez un bébé tigre très mignon. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va grandir, oui, et il deviendra beaucoup, beaucoup plus fort que vous. Il sera donc capable de vous tuer en quelques secondes s'il le souhaite. C'est vrai. Alors, la seule raison pour laquelle vous auriez un bébé tigre et vous le laisseriez grandir, c'est si vous aviez la ferme conviction que vous pouvez l'empêcher de vouloir vous tuer. C'est cette conviction que nous n'avons pas encore dans le cas de l'intelligence artificielle. Si l'IA veut vous faire du mal, ce sera facile. Nous n'avons pas besoin d'énumérer les différentes façons de le faire. Il y a tellement de façons différentes, lance-t-il. A-t-il en tête les armes entièrement autonomes qu'on décrit souvent comme des robots tueurs? Non, car pour lui, c'est une menace très grave à court terme, mais elle n'est pas existentielle. La distinction est très simple, dit-il. La menace vient-elle d'agents malveillants utilisant l'IA? Ou la menace vient-elle du fait que l'IA elle-même se transforme en agent malveillant? La menace dont je parle est la transformation de l'IA elle-même en ce que nous appellerions un agent malveillant. J'ai choisi pour ma part de me concentrer sur la menace existentielle à long terme parce que beaucoup de gens disaient que c'était de la science-fiction. Et j'ai décidé d'utiliser ma réputation pour faire savoir que ce n'est pas de la science-fiction, résume l'expert. La fin de l'entrevue approche et forcément, nous passons à l'étape des solutions potentielles. Geoffrey Hinton n'a pas de réponse formelle à ce sujet, mais il a un avis éclairé. Il constate que les grandes entreprises qui sont responsables des développements de l'IA sont engagées envers leurs actionnaires à gagner le plus d'argent possible et n'ont aucune obligation de se préoccuper de la sécurité. Il estime par conséquent que les gouvernements devraient forcer ces entreprises à consacrer une part beaucoup plus importante de leurs ressources à la sécurité. Nous ne connaissons pas les solutions, mais il serait stupide que l'humanité s'éteigne parce que nous n'avons pas pris la peine de les chercher, lance-t-il. Nous devrions faire appel aux meilleurs jeunes chercheurs pour qu'ils se concentrent sur cette question, ajoute le septuagénaire. Les vieux comme moi ne vont pas trouver la solution. Mon rôle est de plaider pour que les gens tentent d'y parvenir. Qui est Geoffrey Hinton? 1947. Naissance à Wimbledon, au Royaume-Uni. 1975. Il obtient son doctorat en intelligence artificielle à l'Université d'Édimbourg. 1987. Il devient professeur au département d'informatique de l'Université de Toronto. 2013. Il est engagé comme chercheur chez Google, poste qu'il quittera en 2023. 2024. Il reçoit le prix Nobel de physique conjointement avec l'Américain John Hopfield. C'était Nobel et lanceur d'alerte, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 19 mars 2025 dans La Presse.
Tunnel à Terre-Neuve, quel avenir pour le projet évoqué par les libéraux? Un texte de Patrick Butler, paru le 26 mars 2025 dans Ici, Terre-Neuve et Labrador. Évoqué par les libéraux fédéraux dans leur programme électoral de 2019, un projet de tunnel entre l'île de Terre-Neuve et le reste du Canada n'a pas progressé depuis. L'actuel chef libéral, Mark Carney, veut accélérer les grands projets d'infrastructure et demande aux gouvernements provinciaux de proposer à Ottawa de gros chantiers pouvant stimuler l'économie. Mais pendant une visite à Terre-Neuve lundi, il n'était vraisemblablement pas au courant du projet de tunnel et a indiqué que l'ouvrage n'avait pas été abordé pendant une rencontre avec les premiers ministres provinciaux vendredi dernier. Personne ne l'a mentionné, le tunnel, pendant cette réunion. Mais on verra, il faut travailler ensemble, a affirmé Mark Carney pendant un point de presse à Gander. Je n'étais pas là en 2019, a-t-il rappelé. Un projet pour désenclaver l'île. Le service de traversier Marine Atlantique, une société de la Couronne, assure actuellement des liaisons maritimes entre le Cap-Breton et Terre-Neuve. Mais, comme le rappelle Danny Dumaresque, ancien député provincial et ex-président du Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador, ce service est souvent perturbé par la météo pendant l'hiver. Des camionneurs peuvent attendre des jours à la gare maritime de Port-au-Basque ou de North Sydney. C'est sûr que l'absence de progrès me déçoit parce qu'il n'y a aucun autre projet d'infrastructure qui aurait le même effet sur le développement économique et sur la création d'emplois à Terre-Neuve et Labrador, estime-t-il. La raison est simple. Nous sommes isolés et la présence d'un lien terrestre ouvert 24 heures sur 24 changerait la donne pour le transport de marchandises. Le tunnel de 16 km, à l'étude depuis les années 1970, relierait Yankee Point, dans le nord de Terre-Neuve, à Point Amour, dans le sud du Labrador. Le dernier rapport de faisabilité, publié par le gouvernement provincial en 2018, proposait deux projets possibles. Un tunnel ferroviaire et un tunnel routier. À l'époque, la construction devait prendre au moins 14 ans et la facture, estimée, s'élevait à au moins 1,7 milliard de dollars. Le dossier semblait s'accélérer en 2019 après les élections remportées par les libéraux de Justin Trudeau. Un rapport du Comité des transports de la Chambre des communes venait de recommander la construction du projet. La lettre de mandat de la ministre des Infrastructures l'obligeait explicitement à créer un fonds national d'infrastructures pour appuyer de grands projets rassembleurs, dont le lien terrestre entre Terre-Neuve et le reste du Canada. Une façon de compléter la route 138. Alors qu'il était directeur général de l'Association du camionnage des provinces atlantiques en 2020, Jean-Marc Picard avait prévenu que le succès d'un tunnel entre Terre-Neuve et le reste du Canada dépendrait non seulement de l'élaboration d'un plan de construction viable, mais aussi des investissements importants dans les infrastructures routières dans le nord du Québec et à Terre-Neuve. Au Québec, le lien fixe représente notamment une façon de compléter la route 138, reliant ainsi plusieurs communautés de la Côte-Nord au reste de la province. Les conservateurs et les néo-démocrates à Ottawa n'ont jamais évoqué le projet de tunnel dans leurs plateformes respectives. C'était tunnel à Terre-Neuve? Quel avenir pour le projet évoqué par les libéraux? Un texte de Patrick Butler, paru le 26 mars 2025 dans Ici Terre-Neuve et Labrador.
La solitude nuit à la santé en impactant négativement nos niveaux de protéines. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 11 janvier 2025 dans Science et Vie. Des relations sociales de qualité sont essentielles au bien-être d'un individu. À l'inverse, la solitude et l'isolement social sont délétères. De récentes études ont montré qu'ils étaient liés à la morbidité et à la mortalité, au même titre que des facteurs de risque comme le tabagisme et l'obésité. Mais comment nos relations sociales peuvent-elles influencer notre physiologie? Des chercheurs ont découvert que la solitude augmentait les niveaux de plusieurs protéines impliquées dans des mécanismes inflammatoires. La solitude et l'isolement social sont plus fréquents qu'on ne le pense et touchent des individus de tous âges. On estime que 25 % des personnes âgées et que 5 à 15 % des adolescents en souffrent. De nombreuses recherches montrent que ces conditions impactent sévèrement la santé, la qualité de vie et la longévité. L'effet de l'isolement social et de la solitude sur la mortalité est comparable à celui d'autres facteurs de risque bien connus, tels que le tabagisme, l'obésité et l'inactivité physique, souligne l'Organisation mondiale de la santé. La solitude et l'isolement social sont en effet associés à une augmentation de 50 % du risque de démence et de 30 % du risque de maladies cardiovasculaires ou d'accidents vasculaires cérébrales, AVC. Ces conditions entraînent également un risque accru de 25 % de mourir prématurément. Des études expérimentales ont montré que les interactions sociales peuvent altérer la physiologie, notamment en impactant le système nerveux sympathique, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, impliqué dans notre réponse au stress, et le système immunitaire. Malgré ces découvertes, la biologie sous-jacente au lien entre les relations sociales et la santé reste largement inconnue. Le protéome de 42 000 individus passés au crible. Étant donné l'influence des relations sociales sur la santé, les scientifiques s'intéressent aujourd'hui aux processus biologiques responsables de cette influence. Une façon d'explorer ces mécanismes biologiques consiste à observer les protéines circulant dans le sang. En tant que produits finaux de l'expression des gènes, elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Elles servent par ailleurs souvent de cibles thérapeutiques dans le cas de nombreuses maladies. une équipe dirigée par des chercheurs de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni et de l'Université Fudan en Chine a donc entrepris d'examiner le protéome d'une large cohorte d'individus. Dans un premier temps, l'objectif était d'identifier les profils protéomiques associés à l'isolement social et à la solitude. Ensuite, il était question d'élucider la manière dont les altérations protéomiques contribuent à cette association. Les résultats de ces recherches viennent de paraître dans la revue Nature Human Behavior. Cette étude repose sur les données de plus de 42 000 individus extraites de la UK Biobank, âgés de 40 à 69 ans. Parmi eux, 9,3% se considéraient socialement isolés et 6,4% se sentaient seuls. À noter que les deux conditions sont différentes. L'isolement social est une mesure objective. Elle tient compte, par exemple, du fait qu'une personne vive seule, du nombre de ses contacts, de ses activités sociales, etc. La solitude, en revanche, est une mesure subjective. Elle repose sur le fait qu'une personne se sente seule ou non. Au cours d'un suivi médian de près de 14 ans, 2695 participants ont développé une maladie cardiovasculaire, 892 ont développé une démence, 1703 ont développé un diabète de type 2, 1521 ont développé une dépression, 983 ont développé un AVC et 4255 sont décédés. Pour mener son analyse, l'équipe disposait de données individuelles sur 2920 protéines plasmatiques. Des protéines produites en cas d'inflammation et d'infection virale. Après des ajustements pour l'ethnicité, le niveau d'éducation, les revenus du ménage, le tabagisme, la consommation d'alcool et l'indice de masse corporelle, les chercheurs ont identifié 175 protéines associées à l'isolement social et 26 protéines associées à la solitude. Ils précisent que 22 protéines étaient communes aux deux conditions. La majorité des protéines identifiées présentaient une association positive. Cela signifie qu'une plus grande abondance de ces protéines entraînait un risque plus élevé d'isolement social ou de solitude. Notre organisme produit bon nombre de ces protéines en réponse à l'inflammation et dans le cadre de réponses immunitaires. Elles jouent un rôle dans les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les AVC et les décès prématurés. L'équipe rapporte que le GDF15 a montré l'association la plus forte avec l'isolement social. On sait que cette protéine intervient dans les cancers, l'inflammation et les maladies cardiovasculaires. Un taux élevé de GDF15 serait un marqueur de risque de décès et d'événements cardiaques graves. La protéine PCSK9 a montré l'association la plus forte avec la solitude. Il s'agit d'une protéine clé pour la régulation du métabolisme du cholestérol. Seules 4 protéines sont apparues comme des facteurs de protection contre l'isolement social et une contre la solitude. Certaines régions cérébrales réduites par la solitude. Une fois le lien confirmé, restait à explorer la relation de causalité entre l'isolement, la solitude, et les protéines. Les chercheurs ont constaté qu'aucune des protéines ne semblait être à l'origine de l'une ou l'autre condition. En revanche, la solitude a nettement influencé les niveaux de 5 protéines. Parmi elles, l'ADM, qui joue un rôle dans la réponse au stress et dans la régulation des hormones sociales, telles que l'ocytocine. Pour explorer la relation entre les protéines identifiées et les fonctions physiques générales, les chercheurs ont étudié leur association avec d'autres biomarqueurs sanguins et le volume cérébral. Ils rapportent que la cystatine C, un biomarqueur de la fonction rénale, a montré la plus forte association avec les 5 protéines. De plus, elles présentaient toutes des connexions robustes avec la protéine C-réactive, CRP, un biomarqueur substantiel de l'inflammation systémique. Au niveau du cerveau, les données ont révélé une association significative entre quatre protéines et les volumes de certaines régions cérébrales, l'insula, le noyau caudé et le cortex frontal. Ces zones sont essentielles à l'interoception, notre capacité à percevoir l'état de notre corps, ainsi qu'aux processus émotionnels et sociaux. Un niveau élevé d'ADM était associé à des volumes réduits de matière grise dans l'insula et le noyau caudé gauche. Maintenir des interactions sociales pour être en bonne santé. Les chercheurs ont ensuite étudié les associations entre les protéines liées à l'isolement social et à la solitude et l'incidence de la morbidité et de la mortalité. Ils ont considéré 5 maladies dont l'association avec les relations sociales est bien documentée. Les maladies cardiovasculaires, la démence, le diabète de type 2, la dépression et les AVC. Après ajustement de divers facteurs de confusion, les résultats ont révélé que 90 % des 179 protéines identifiées étaient associées à la mortalité et que plus de 50 % étaient liées au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires et aux AVC. Seulement 6,6 % d'entre elles étaient associées à la démence. GDF15 est apparu comme la principale protéine associée à un risque accru de toutes les maladies et de mortalité, à l'exclusion du diabète de type 2. Des niveaux élevés d'ADM entraînaient un risque accru de décès précoce. Une association apparaissait également entre la protéine ASGR1 et un taux de cholestérol plus élevé et un risque accru de maladies cardiovasculaires. D'autres protéines identifiées jouent un rôle dans le développement de la résistance à l'insuline, de l'athérosclérose et de la progression du cancer. Il s'agit de la première étude décrivant des signatures protéomiques plasmatiques robustes et complètes associées à l'isolement social et à la solitude. Les résultats soutiennent ainsi l'idée selon laquelle les relations sociales influencent indirectement la morbidité et la mortalité. Il apparaît donc essentiel de maintenir des contacts sociaux de qualité pour être en bonne santé. De plus en plus de personnes de tous âges déclarent se sentir seules. Nous devons trouver des moyens de lutter contre ce problème croissant et de maintenir les liens entre les personnes pour les aider à rester en bonne santé, conclut Barbara Sahakian, professeure au département de psychiatrie de l'Université de Cambridge et co-auteur de l'étude. C'était « La solitude nuit à la santé en impactant négativement nos niveaux de protéines ». Un texte de Fleur Brosseau, paru le 11 janvier 2025 dans Science et Vie.